Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Et amis des archives, amis du travail bien fait, bonjour Jean Bulot, notre invité est arrivé avant moi. Bonjour Jean.
Bonjour.
Pourquoi vous arrivez, tu es arrivé si vite?
Parce que je suis un habitué de la radio, je suis l'un des auteurs d'Affaires Sensibles et j'ai travaillé aussi à France Culture pour une émission qui s'appelait Les Midis de France Culture. Et c'était un peu stressant quand un invité arrive en retard.
Entre 41 et 45, dans les rangs de la Wehrmacht ou de la SS, puis de la milice, près de, non pas 5000, non pas 10000, ni 15, ni 20, ni 25, mais 30000 Français se sont engagés aux côtés des nazis. Parmi eux, le milicien Henri Fesnay, le nationaliste Pierre Bousquet, qui en 1972, déposera avec Jean-Marie Le Pen les statuts d'un nouveau parti, le Front National. Avec nous, Jean, donc, auteur d'une série documentaire de deux épisodes dont on va voir de larges extraits tout à l'heure parce que tu nous as offert ce cadeau, et d'une série sur France Culture de 4 épisodes qui seront bientôt en ondes, tu es avec nous. Est-ce que la présentation te convient ?
Très bien, très bien. Sur les 30 000, c'est la fourchette haute parce que sur cette question-là, des ultras de la collaboration et des Français qui ont fait le choix des armes du côté des Allemands, une partie des archives ont été détruites. Et donc l'estimation haute, c'est 30 000 et on est autour de noms retrouvés, autour de 10 000 en ce moment.
Alors, homme de radio que tu es, nous n'avons pas les moyens de Radio France ni d'Arte. Alors, il faut coller un tout petit peu le micro sur le menton.
Voilà.
Nous n'avons pas des capteurs, des micros qui captent magnifiquement la voix de Fabrice Drouel et de ses invités. Très bien. Tu as dit ce mot « ultra de la collaboration ». Qui est un terme que je ne connaissais pas. Et en fait, il y a un distinguo qui est fait entre les collabos et les ultra-collabos. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence ?
Alors, les ultra-collaborations, la première fois que moi je l'ai lu, je crois que c'est dans un article de Tal Brutmann, donc historien, et dans son livre aussi, qu'il avait fait au début des années 2000. Les ultras de la collaboration, ce ne sont pas les hommes de Vichy. Ce sont les hommes qui ont fait le choix de la collaboration et des Allemands par choix idéologique. Donc on les a appelés les collaborationnistes, ça c'était une distinction de Pascal Horry. Et les ultras, effectivement, c'est un terme qui a émergé il y a une vingtaine d'années et qui est peut-être plus juste que les collaborationnistes. Mais les deux termes sont justes. C'est vraiment ceux qui ont fait le choix du régime nazi, qui ont cru finalement à l'utopie nazie et qui ont combattu pour cette Europe nazie, cette Europe nouvelle, comme on le disait à l'époque. Et ce ne sont pas des... Henri Rousseau aussi, qui est un autre historien, parlait de Vichy comme des collaborateurs par opportunistes. C'est qu'ils ils avaient fait le choix de l'occupation et de la collaboration par opportunisme pour trouver une autre place, une autre voie. Eux, non, c'est des gens qui sont, avant la guerre ou pendant la guerre, ils ont trouvé l'utopie nazie assez juste et ils voulaient avoir une place au sein de cette Europe.
Alors le mot utopie, hein, je te l'ai pas dit, mais ici il y a le chat, donc ouais. les gens, les oppositions et les oppositions qui participent par leur discussion à notre émission et qui, je vois dont les oreilles saignent un peu avec le terme utopie, peut-être que tu pourras préciser, ouais. Mais je voudrais aussi parler de Le Gueuloir qui dit, ça m'intéresse, je crois avoir un arrière-grand-oncle qui s'est battu avec les nazis, j'aimerais mieux comprendre le contexte des civils de l'époque. Alors là, bienvenue Le Gueuloir, parce que ça va être l'objet, et évidemment va planer tout le long de l'émission la menace fasciste qui s'agite à nouveau en France, puisque je l'ai dit tout à l'heure, parmi les gens dont tu parles, il y a un des fondateurs, il y en a un qui a déposé les statuts du Front National. De leur point de vue, c'est une utopie, voilà ce que répond Trognon.
Oui, et en fait, il y a un ouvrage aussi qui est sorti l'an dernier, sur le monde nazi, écrit par Nicolas Patin, Christian Ingrao et Johan Chapoutot, qui revient sur l'idée de le nazisme, ça a été un mouvement politique qui émerge en Allemagne dans les années 20, qui prend le pouvoir en Allemagne en 1933. Et c'est vraiment... on parle d'utopie, c'est un mouvement politique avec une idéologie et avec un horizon. Et c'est pour ça qu'on parle d'utopie, ouais. Parce que les gens qui s'engagent aux côtés des nazis le font pas pour des idées négatives. Eux, ils le font pour eux, pour imaginer un monde meilleur. Alors, leur monde meilleur, sauf qu'ils... Ça éjecte toute une partie de l'Europe, de la communauté, de la société, des ennemis, donc bolcheviques, juifs et autres. Mais ils le projettent comme ça. Et j'avais fait deux autres films sur la montée du nazisme en Allemagne, vu par les correspondants étrangers. Et cette question de l'utopie est aussi présente. On a beaucoup raconté le nazisme du point de vue de la tribune, des figures, d'Hitler, Goebbels et tout. Et toutes ces personnes-là, mais en fait, quand on recule un peu, quand on se met dans la foule, c'est là aussi où on raconte l'histoire de façon différente, d'un point de vue social. Y a tout un pan de l'historiographie qui revient sur l'histoire sociale du nazisme. Et donc l'utopie, le terme utopie, s'intègre dans cette idée-là.
Et d'une certaine manière, ce que tu expliques là montre un peu ta démarche, où bien sûr tu as un point de vue, mais l'idée c'est de nous amener à réfléchir, à comprendre les logiques qui ont été affreuses évidemment, mais qui ont été celles à l'œuvre, alors massivement des hommes, hein, je crois qu'on ne parle que de gars.
Ouais. Ouais, les soldats, étant donné que là dans le film c'est les soldats français du Reich, effectivement c'est seulement des hommes, mais même si on entend dans le film, la voix de femme.
On entend la voix de femme, d'épouse.
D'épouse.
Fière.
Fière du départ de leur mari sur le front de l'Est. On les voit aussi dans les meetings.
Alors, je propose qu'on regarde un premier extrait qui est l'extrait numéro 00. Je dis ça à mon cher Nayan qui est en régie. Je salue aussi Uriel qui est à la modo. Et j'en profite pour dire que la diffusion des deux films sera à partir du 17 mars à 20h55 sur Arte et en ligne après cette émission. Voilà. Après cette émission sur Arte, c'est la raison pour laquelle tu es là ce matin. Je propose qu'on regarde donc l'extrait, le premier extrait, le départ sur le front de l'Est, le départ sur le front russe. Bonjour, bonjour, demande Safou, c'est quelle date ces images?
Alors c'est les images de l'automne 1941. Le début de l'histoire des soldats français du Reich débute à l'été 41, à l'ouverture du front à l'Est, au moment où le Troisième Reich attaque l'URSS. Et c'est un moment où, sur l'ensemble de l'Europe, ça libère finalement des énergies des ultras, de ceux qui voulaient déjà combattre l'URSS et le bolchevisme. Et donc ça leur donne une raison d'enfiler l'uniforme allemand. Et donc à l'été 41, dans toute l'Europe, des volontaires s'engagent. Vraiment, c'est l'international nazi pour l'Est. Et en France, leur départ est le 27 août. Et donc au mois d'octobre, ils sont en Pologne, où ils intègrent la Wehrmacht au sein du 638e régiment. Donc c'est vraiment des Français qui ont juste un écusson. On le voit sur les images, ils ont juste l'écusson tricolore, ce qu'ils n'ont pas à chaque fois. Mais c'est vraiment des soldats allemands comme n'importe quel soldat allemand. Donc c'est pas la Waffen-SS. La Waffen-SS, il faudra attendre 1943. Et donc Smolensk, c'est le début, c'est qu'ils vont partir sur la route de Moscou, parce qu'ils espèrent prendre Moscou avant la fin de l'année. Et donc, c'est des images de l'automne 41, novembre. Et après ça, en décembre, ils font une première montée au front à Djoukovo, à quelques centaines de kilomètres de Moscou, et c'est une débandade. Et c'est ça aussi, ça a été hyper intéressant. J'aime beaucoup travailler sur les archives sonores comme source historique, pour comprendre les images. Parce que ces archives sonores de quelqu'un qui parle de Smolensk, si on ne sait pas ce que c'est Smolensk, si on ne sait pas que les Français sont passés par là, en fait, ça ne fait pas sens. On entend juste quelqu'un avec un accent qui raconte qu'il a été au front. Mais là, ça fait sens, parce que Smolensk revenait dans les écrits que j'avais, dans les lettres. Et de l'entendre, c'était hyper fort. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils vont découvrir et qu'ils vont voir ce que dit un légionnaire. Je suis parti pour tuer la bête. Je, je, je sais plus exactement le terme, mais anéantir ou tuer. Et effectivement, c'est... on retient de la guerre à l'Est les premiers mois de Barbarossa avec l'image des Eisengruppen. C'est l'image qu'on a dans la mémoire collective des grands massacres portés par des SS, les Eisengruppen. Mais en fait, cette guerre qui a été une guerre d'anéantissement...
Là, c'est la Shoah par balle, c'est ça. Hein,
la Shoah par balle, mais ce qu'on appelle la Shoah par balle, les fusillades massives ne se sont pas limitées à l'été 1941.
Non, bien sûr.
La guerre à l'Est a été une guerre d'anéantissement et de colonisation. Et de 1941 à 1944, à l'été 44, les fusillades sont quotidiennes.
Alors, il y a des questions. Non, tu n'as pas beaucoup raté, demande la baguette marxiste. Par contre, je tiens à prévenir que la rediffusion de l'émission sur YouTube va probablement être strikée, comme à chaque fois qu'on présente des images, soit d'Arte, soit de Lina.
Ah oui.
Donc, on va être obligé de couper les extraits. Ou alors, sur le site opost.media, vous regarderez la version Peertube. Et là, il n'y aura pas de problème. Mais pour l'instant, on est en direct. Donc, tout va bien. Tu parles d'archives sonores. En fait, il s'agit d'archives de la radio française. Alors, il y a quelque chose d'absolument saisissant. Là, je fais un bond en avant. C'est quand Paris est libéré, tu remets des archives de la radio française. Et là, c'est tout d'un coup... des voix de journalistes qui sont avec l'armée américaine, l'armée de libération, avec De Gaulle. Et là, ce sont des voix de journalistes absolument incroyables, de collabos, mais alors pur jus. Et donc ça, c'est déjà un premier enseignement, c'est de voir combien, y compris dans les médias, il y a un distinct groupe, peut-être que tu peux en parler. Et ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, la voix un petit peu rocailleuse, probablement du sud-ouest, qu'on entend de ce monsieur, nous le rend extrêmement contemporain, extrêmement proche. C'est là la force, effectivement, du son, je trouve.
Alors, effectivement, ça redonne de l'épaisseur à la foule. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de me limiter à un personnage. Parmi les soldats français du Reich, l'un des plus connus, c'est Jacques Doriot. Jacques Doriot qui aurait pu prendre toute la place par rapport à président et fondateur du Parti populaire français, du PPF, avant la guerre qui est réactivée en 1941 et qui a vraiment été, qui est l'une des figures des collaborateurs qui ont pris les armes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment raconter la foule. Qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Pourquoi se battent-ils? Ont-ils cru à cette utopie? Jusqu'où ils ont été prêts à aller? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont raconté à leur retour? Et donc, l'archive sonore permet ça, permet de donner de l'épaisseur. Et ce monsieur, je ne connais pas son nom. Je ne sais pas qui c'est.
Oui.
Il ne le présente pas. Mais peu importe, parce que moi, j'ai des photos de cette foule en Pologne que j'ai retrouvée en Allemagne à Freiburg. J'ai des photos d'eux, en fait, dans les archives. Et ils prenaient des photos ou après, dans les années 70, où des anciens nostalgiques ont raconté cette histoire d'une autre manière, mais on en publiait aussi des photos. Et dans ces photos, dans ces archives, il y a vraiment des... Moi, j'aime utiliser les archives comme source d'histoire. Je suis historien de formation. Et je suis arrivé par l'histoire des images. Donc, c'est vraiment... C'est les images sont pas là pour illustrer, sont pas là pour appuyer un discours. Non, il faut construire autour de ces images et autour de ces sons. Et c'était là où c'était hyper intéressant et où ça a été hyper riche pour ce film.
Alors, à propos d'images, on a vu cette ville de l'Est avec des images en couleur. Ouais. De deux choses l'une. Soit ce sont des images couleur à l'époque de l'armée allemande qui avait encore quelques bobines au début de guerre puisqu'il y avait Kodak qui était une usine allemande qui avait de la pellicule couleur, puis ça va starir. Ou alors c'est colorisé.
Non, c'est pas colorisé du tout. Non, je colorise pas les images. C'est des images d'Akash, je crois, qui a un fond en Allemagne.
Oui.
Et notamment avec les films amateurs des soldats allemands, parce que les soldats allemands, les soldats de la Wehrmacht en 1941, au moment de Barbarossa, filme beaucoup Barbarossa et l'été et l'automne 41. Et donc, c'est sans doute un officier un peu plus gradé qui avait des bobines couleur, mais ils ne sont pas colorisés, il n'y a aucune image qui est colorisée.
Et pourquoi tu ne colorises pas? Quelle est la morale, l'éthique du documentariste derrière cette idée?
Parce que la couleur rajoute pas de la vérité à cette histoire-là. je suis pas sûr. Il y avait tout un discours quand j'étais plus jeune sur l'idée que pour que les jeunes regardent les documentaires, il fallait qu'ils soient en couleur parce que c'était plus près, plus proche de nous. Ça, je ne crois pas. Ça coûte énormément cher, dans l'absolu. Et alors maintenant, ça pourrait coûter moins cher avec l'IA et avec les nouveaux outils, mais non, en fait, ça dégrade un peu. Moi, je trouve que ça dégrade l'image. Même s'il y a des films où c'est hyper bien fait, mais moi, j'en ai pas besoin. Et même, ça me gêne de rajouter. Même dans les montages sonores, je rajoute très peu de. J'ai pas besoin, par exemple, quand je vois une charrette rouler, j'ai pas besoin d'entendre le son pour l'entendre. J'ai pas besoin de le rajouter pour l'entendre. Mmh. En fait, l'imaginaire fait le reste. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de couleurs là. Et non, je suis pas adepte de la colorisation.
Alors, avant de passer au deuxième des quatre extraits, tu as parlé de la bête. La bête, c'est le communiste, en fait. Hein. C'est-à-dire que ces gens, ces Français, qui s'engagent en 40, s'engage, si j'ai bien vu ta série, à la fois par conviction de l'utopie nazie, mais aussi par anti-bolchevisme. D'ailleurs, la LVF, c'est bien, voilà, je vais être bien sûr de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Hein, c'est quand même ça. Tu remets des discours de Doriot. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu qui explique bien qu'il faut terrasser la bête communiste. Est-ce que tu peux nous restituer toute cette pensée de l'époque?
Oui, en fait, 41, c'est vraiment le moment où, même avant, la question du bolchevique, la figure du bolchevique, c'est vraiment la figure de l'ennemi pour toute une partie politique, idéologique, européen, et notamment français. Tous les mots, finalement, de l'occupation, de la défaite, c'est la cause du bolchevique. Mais derrière la figure du communiste, du bolcho, il y a le juif pour eux. En fait, c'est une figure qui est le complot judéo-bolchevique. En fait, c'est une figure qui rassemble tout. En fait, c'est derrière cette image de lutter contre l'URSS, contre les communistes et le bolchevisme, c'est aussi lutter contre la figure du juif qui domine le monde, qui aurait été la cause de la défaite en 1940, qui aurait été... Et donc, c'est tout ça qui est mélangé. Et effectivement, quand ils disent que c'est une autre civilisation, c'est un autre monde. Et effectivement, quand ils arrivent en Biélorussie et aux portes de Moscou, c'est sûr que pour un Français qui vient du Lot-et-Garonne, c'est un bouleversement. Mais on voit bien dans les images amateurs des soldats, ils vont détruire tous les symboles. Les symboles en lien avec le bolchevisme et aussi les synagogues. En fait, ils détruisent les deux. Parce que pour eux, c'est un ensemble. En fait, tout juif est communiste, presque. Bah, du moins, et derrière cette figure-là.
C'est tellement actuel, nous dit Zaël sur Twitch. Et je vois que ça bouge aussi sur YouTube. Quelqu'un, je crois, un de tes historiens ou une des historiennes, on a compris un petit peu le dispositif, on y reviendra après, évoque ce moment-là comme un espace d'impunité pour ces engagés français, c'est-à-dire cette idée quand même de pouvoir être le massacreur, quoi, en toute impunité. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est une motivation du chasseur, on va dire, ouais. Ou est-ce que c'est un état de fait ?
En fait, il y a deux temps. À chaque fois, il y a cette histoire des soldats français du Reich. Il y a le moment 41-42, qui est le premier contingent, et ceux qui vont venir après, en 1942, 43 et même 44. Et donc, ils vont pas avoir les mêmes informations, c'est pas la même guerre, totalement. Effectivement, Barbarossa, c'est un moment d'impunité parce que il y a un intervenant, Philippe Douroux, qui dit la guerre n'a plus de règles. Parce qu'effectivement, le Troisième Reich et l'état-major du Troisième Reich a indiqué à ses soldats qu'il n'y avait plus de règles, en fait. Mm-hmm. Qu'il y avait plus, et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a les fusillades massives. C'est à ce moment-là aussi que les civils sont attaqués et massacrés. Et c'est un moment où, pour les Français, ils découvrent cette guerre, cette façon de faire la guerre, cette façon allemande ou nazie plutôt, de faire la guerre, avec, il y a beaucoup d'images dans le film, de pendaison.
Oui.
Parce que, en plus des grandes fusillades, il y a tout un... On pend les gens. On pend le maire du village pour initier la terreur, parce que c'est une guerre aussi où la terreur est un outil. On imagine aussi, et ça a été documenté, la question des viols. Et c'est toute une période où le soldat qui part faire la guerre, qui fait la guerre, fait cette guerre de cette manière-là. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de front. Le front est partout. Et les Français découvrent ça. Et certes, certains sont choqués par ça. Il y a des désertions du côté des Français, mais il y a beaucoup qui trouvent un plaisir de ce pouvoir-là. Un pouvoir sur les civils, sur... effectivement, ils sont du bon côté, ils sont du côté de la force pour eux. Et donc, en plus, il n'y a pas de défaite. L'armée rouge ne fait que reculer, et en fait, ils ne voient que des civils. Donc, les partisans, en fait, ils commencent à constituer ce qu'on appelle l'archipel des partisans, mais elle prend du temps, cet archipel, à se constituer. Donc, sur ces premiers mois, ils ont les mains libres.
On va regarder l'extrait 1. On est fin 41. Est-ce que tu te souviens de l'extrait que tu as choisi ou pas? Est-ce que tu veux l'introduire? Ou on le regarde?
On va le regarder.
Et puis ensuite, on va... alors, il y a une question qui revient beaucoup, parce que je pense que des gens qui ont pris en cours de route, je pense que ça vaut le coup de répondre une dernière fois. Combien étaient-ils?
Alors, la fourchette haute, c'est 30 000 au sein de la Wehrmacht. Alors, au sein de la Wehrmacht, la Waffen-SS de 1941 à 1945. Mais aujourd'hui, parce qu'une partie des archives ont été détruites au moment de la libération, on a le nom d'un peu plus de 10 000 Français qui ont combattu soit sous l'uniforme de la Wehrmacht, soit sous l'uniforme de la SS, donc la SS à partir de 1943, et l'ensemble des survivants de la LVF et de la Waffen-SS sont rassemblés à l'automne 44 dans ce qu'on appelle la division Charlemagne, qui est un peu plus connue dans l'imaginaire collectif, et pourtant qui... d'un point de vue militaire, où il ne se passe rien. Disons, Charlemagne, à part se faire défoncer, ils ne font pas grand-chose. Mais
avec,
voilà.
Si, ce symbole, mais on y viendra à la fin, que ce sont des gens qui vont défendre Berlin. C'est les Français qui vont défendre Berlin. Et il y a un historien qui a une très belle image dont on parlera, si je puis dire, tout à l'heure. Enfin, il y a un truc un peu comique que j'ai trouvé marrant. C'est cool de le dire. Voilà, alors, extrait numéro 1, et on se retrouve juste derrière. Alors, il y a beaucoup de choses. Tu voulais revenir sur la lettre de Brunelli, un des légionnaires.
Oui. Comment j'ai pu raconter cette histoire-là, c'est que à partir de 2015, les archives de la Seconde Guerre mondiale ont été plus librement accessibles. Avant, il y avait des dérogations qui prenaient du temps, et désormais, on peut avoir accès aux archives beaucoup plus rapidement. Et notamment dans les archives nationales, c'est là où j'ai trouvé le carnet de Dominique Brunelli, donc quelqu'un qui part en 1941. Il raconte ses premiers mois au sein de la LVF. Et il raconte, en fait, l'envers du décor. L'envers du décor qui est cette guerre d'anéantissement et ses pendaisons. Et ses pendaisons... On connaissait ces images et ce quotidien du côté des Allemands. Dans l'historiographie allemande, les Allemands ne vont pas apprendre grand-chose en disant « oui, on a pendu à l'Est ». Mais sauf que des Français y participent, justifient. Cette photo qu'on voit à un moment, que j'ai retrouvée aux archives, du Rhône, en fait, les légionnaires reviennent avec des photos des pendus. Il y en a un, pareil, dans le sud-ouest, Joseph Laporte, quand il se fait arrêter, dans son portefeuille, il y a une photo de pendu, et c'est quelqu'un qui vient de la coloniale. Donc c'est des images aussi, et des pratiques dont certains, ceux qui avaient un passé dans la coloniale, avaient déjà expérimenté. Et pendre des hommes, ou des femmes, ça ne les gêne pas, et ils le racontent. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que de l'écrire, de le faire, c'est une chose. De l'écrire dans un carnet, c'est une autre chose. Ce que j'ai découvert aussi, et ça c'est grâce aux archives, c'est que ils sont fiers de ce qu'ils font et ils le racontent. Juste après cette séquence, on revient sur Henri Lacroix. Henri Lacroix qui a été l'un des chefs de bataillon de la LVF. Il écrit à Ménétrel. Ménétrel qui est le médecin personnel de Pétain, mais qui est aussi son secrétaire. Et donc il envoie une lettre en mars 1942 où il raconte qu'il a pendu une trentaine et qu'il faudrait faire la même chose en France. Donc cette idée aussi que les Français ne savaient pas, et ceux qui sont partis en 1942, c'est pour ça que je disais que c'est pas la même guerre en 41, 42, 43, en 42, dans les meetings du PPF, du MNR, des jeunes de l'Europe nouvelle. On raconte ces choses-là. On en est fiers. J'ai une affiche en tête du PPF qui dit « il faut les pendre ».
Parti populaire français, c'est ça.
Parti populaire français de Jacques Doriot. De mettre sur une affiche « il faut les pendre », pour eux, il y a des images qui vont derrière et il y a surtout ce qu'on raconte. Les légionnaires reviennent en France pendant les permissions et racontent, essayent d'envoyer d'autres hommes, d'autres Français pour aller combattre à l'Est. Et donc cette question des crimes à l'Est, des premiers crimes, parce que la question des pendaisons, c'est les premiers crimes, l'information circule et circulait pendant l'événement. Et pourtant, des années après, ça s'est échappé. Échappé de l'historiographie et aussi des livres d'anciens légionnaires, parce qu'ils ont écrit, ou de nostalgiques, qui ont raconté cette guerre d'une autre manière. Pour eux, c'était l'avant-garde. L'avant-garde de la guerre froide. Ils ont été les premiers à combattre le bloc communiste. Non, ils ont été les premiers à détruire des villages et à tuer civils, hommes, femmes, enfants, vieillards, au nom de quelque chose, au nom de la lutte contre le bolchevisme, mais aussi au nom du fait qu'ils étaient aux côtés des plus forts à ce moment-là.
Très belle définition, si je puis dire, de Zoël Roux. Le fascisme, c'est le colonialisme qui rentre chez lui. Alors, il y a plusieurs questions sur les archives. Il y a Sorcière qui nous dit « Quelles sont les archives de la Deuxième Guerre mondiale qui n'ont pas encore été ouvertes ou qui sont à un accès contraint ?» Là, tu as parlé tout à l'heure de levée de restrictions. En fait, elle est récente, si j'ai bien compris, c'est 2015.
Ouais, c'est François Hollande, au moment de l'anniversaire de mai 2015, qui annonce l'ouverture totale.
Ce qui permet à des documentaristes comme toi de nous proposer des images que nous n'avions jamais vues.
Alors, les images, oui, mais c'est surtout les documents.
Les documents.
En fait, ouais. C'est surtout les documents administratifs. Une partie du gros du corpus, ça a été les dossiers de l'épuration, les dossiers judiciaires. Parce que la question des dossiers judiciaires et du ministère de l'Intérieur et de la Justice ont des restrictions qui sont différentes. Un, pour une question de... Il faut passer plus de 50 ans et que les personnes soient plus en vie, tout ça. Et donc oui, avant, les dossiers de l'épuration, il fallait d'abord déjà avoir un nom de quelqu'un qui avait été condamné pour intelligence avec l'ennemi, parce qu'ils ont été tous condamnés pour intelligence avec l'ennemi, pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour le fait d'avoir porté l'uniforme allemand. Et ça mettait du temps, le temps d'une dérogation. Mais le temps d'une dérogation, quand on en demande une et que ça prend 3 mois, quand on doit en demander 50, 100. Mais aujourd'hui, on demande en fait un carton et c'est là où une foule de personnes qu'on n'avait jamais croisées. Dominique Brunelli, il sort des archives parce qu'il est dans un carton et qu'il y a son carnet, comme d'autres, mais des personnes qu'on aurait eu du mal à cibler dans les archives parce que leur nom était absent. Dans les livres écrits par les nostalgiques, c'est sous pseudo, donc en fait, on ne peut pas les retrouver. Donc, à part être vraiment intégré dans le cercle des anciens, c'était compliqué de retrouver certains noms ou être un fils d'eux. Ce qu'a fait, et c'est là aussi où j'ai eu une chance incroyable, c'est que quand je suis parti sur ce film, cette histoire-là de la collaboration militaire était un angle mort de l'historiographie française. On pouvait aborder la division Charlemagne, on pouvait aborder la LVF, mais de façon très institutionnelle. Et les historiens n'avaient pas fait face à cette question-là. Donc j'ai rencontré Marie Moutier-Bitan, je lui ai donné un premier document qui m'a confirmé que c'était possible ce que racontait ce Français. Et une deuxième personne, vraiment au moment où j'étais en train de caler tous mes entretiens, et ça c'est limite à la fin, Philippe Douroux, qui est un journaliste de Libération, un ancien journaliste de Libération, et qui s'était posé les mêmes questions et qui faisait le même travail pour un livre qui est sorti en février dernier. Mais lui, il est rentré dans cette histoire d'une manière...
Parce que
différente.
C'était son père. Alors, on a reçu Philippe Douroux dans Extrême-Orama à la sortie de son livre, d'autant plus que dans une autre vie, j'ai travaillé à Libération avec Philippe, et comme tout le monde, j'ignorais totalement qu'il était le fils d'un engagé français jusque la Waffen-SS. Hein,
ouais, il va jusqu'à Berlin. Hein.
Et qui va jusqu'à Berlin. Et là, on voit Philippe, dans l'extrait qu'on a regardé, on voit Philippe qui est particulièrement... ému et bouleversé en fait par tout ce qui te raconte.
Exactement, parce que quand on est face à ces archives et qu'on se dit que on les a pas retrouvées dans les livres d'histoire, déjà la première réaction qu'on a, c'est est-ce que ce qui est dit est vrai? C'est la première réaction qu'il faut avoir. Est-ce que ce que je suis en train de lire est vrai? Donc là, il faut d'abord vérifier. On en trouve d'autres. on commence à interroger des historiens, mais c'est vrai qu'on est face à ces archives en se disant, mais c'est bizarre que je sois le premier à les trouver quand même. C'est un... Et lui encore plus, parce que lui, il cherchait des éléments sur son père. Et donc, en cherchant sur son père, il voit toute cette foule. Et il se dit, mais on ne m'a jamais raconté cette histoire. Et il voit cette foule et il s'imagine, parce que ce qu'il a cherché, en fait, dans son livre, il voulait savoir si son père avait participé. Et si oui, quel village, quel lieu, quelle opération. Et effectivement, il a travaillé 6 ans, Philippe. Il a été, moi, j'ai été seul quelques mois. Lui, il a été seul 6 années. Et quand je l'ai rencontré, j'ai été hyper soulagé.
À mon avis, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il a porté ce secret toute sa vie, finalement.
Il a commencé à trouver les premières archives.
Voilà, c'est ça.
Et il commençait son livre et il a fait un travail incroyable. Il a fait une base, notamment une base nominative de tous les noms qu'il trouvait pour les marquer. Et dans ce tableau, il met le nom de son père. Et d'inscrire tous ces noms, ça rassemble cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'il est, pour moi, il est hyper touchant parce que, il porte une partie des questions que je me suis posées dans ma recherche. Et donc, il les porte. Donc, j'ai pas besoin d'être là ou de le trop marquer dans la voix off. Et il me fait penser, pour ceux qui connaissent l'histoire dès la première fois que je l'ai vu, il m'a fait penser à lui, de la guerre d'Algérie et de la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne. Qui a été mon premier sujet de mémoire en master, sur comment on a raconté la mémoire de la guerre d'indépendance et quels événements ont pris place à la télévision, comment ça, le récit télévisuel a évolué. Aujourd'hui, tous les jeunes connaissent le 17 octobre 61. En 1980, personne connaissait le 17 octobre 1961. La manifestation qui prenait toute la place était Sharon. L'un des personnes qui ont imposé dans le souvenir collectif, dans la mémoire collective, le 17 octobre 1961, c'est Jean-Luc Enoni. Jean-Luc Enoni, il n'est pas historien de formation. Ben, il n'est pas. Et il a fait un travail presque seul, où il a porté ce souvenir-là jusqu'à faire face à Papon lors du procès. Et je trouve qu'il y a un truc dans ma rencontre, quand j'ai rencontré Philippe, de me dire. Il me faisait penser à lui tellement il a porté cette histoire-là seul et qu'on se soit retrouvé au moment où j'étais en train de faire mes tournages. Ça a été.
Justement, je te propose qu'on reste quelques instants sur la forme. On reviendra sur le fond avec un troisième extrait sur la forme. On vient de voir dans l'extrait qu'il y a un recours à l'animation. On voit aussi que les protagonistes les gens que tu as interviewés, dans le cadre du tournage, tu les mets dans un décor, qui est un décor factice. J'aimerais savoir pourquoi tu fais ça, à quoi ça répond, est-ce qu'on est obligé d'en passer par là, qui sont des codes, on va dire, très usités actuellement. D'une certaine manière, je vais être un peu critique, d'une certaine manière, quand bien même les animations sont formidables, notamment les cartes, que je trouve absolument extraordinaires, il y a un petit côté... Je vous prends par la main, un petit côté Netflix, notamment là, je pense au décor. Tu vois, cette idée d'avoir mis au mur des photos de soldats, de mettre une lampe qui pourrait être une lampe des années 40 en arrière-plan, etc. Pourquoi passer par cette mise en scène ? Quand je dis mise en scène, c'est pas péjoratif, mais c'est une mise en scène.
Alors, le décor, d'abord le décor, c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on fait un film, de où on les filme. Ça faisait plusieurs mois que j'étais dans les archives. La question d'avoir un lieu commun, ça aurait pu être un centre d'archives dans l'absolu, mais d'avoir un lieu donc unique était important pour unifier le récit dans l'absolu. Je trouve que ça fonctionne assez bien, mais surtout en fait à Vincennes, aux archives militaires de Vincennes, il y a un fichier qui est incroyable qui est ils ont les Français qui ont fait le choix de la Waffen-SS. En signant leur engagement, avant de partir, ils prenaient une photo. On a 377 photos de ces Waffen-SS français qui montrent des enfants, des gamins, vraiment des gamins et des vieux monsieur qui s'engagent au sein de la Waffen-SS. Et de ces 377, je les ai vus et revus. Et donc de montrer... En fait, il y avait un truc pour... pour l'intérêt de mes entretiens, de à l'arrivée de mes intervenants, même si on ne le voit pas finalement, parce que je ne l'ai pas gardé, je voulais les mettre face à ces photos où on regarde les photos, on se dit que c'est des Allemands. Le film aurait pu se dire, aurait pu s'appeler « La bif et pas le moine » presque. Non, parce que c'est, en fait, c'est important de se dire, face à ces personnes qui ont l'habit de l'allemand, ben, c'est des Français. Et en fait, c'était tout le problème dans cette histoire-là. Non,
mais là tu reviens à...
Mais non, mais en fait, le dispositif, il a un intérêt pour l'intérêt de l'entretien. C'est de la merde, mettre les historiens en situation face à ces visages et face à ces archives, parce que ces historiens que j'interroge, ils n'ont pas travaillé sur mon sujet. Moi, je leur amène des archives qu'ils connaissent, pour certains, pas du tout. Je leur ai envoyé avant, on en a parlé, mais à chaque fois, Christian Ingrao a travaillé sur les chasseurs noirs, sur la division Dillwanger. Des Français participent à des opérations conjointes à Dillwanger. C'est pour ça que j'interroge là-dessus. Mais si je l'appelle en disant « Bonjour, monsieur Ingrao, est-ce que vous pouvez venir participer à mon film sur la LVF ou la Waffen-SS et Français ?» Ils vont me dire « Mais j'ai pas travaillé dessus. » Mais de le venir avec ces documents et avoir un endroit unique avec les documents, et pareil, je ne l'ai pas gardé, mais il y avait une séquence où on projetait les cartes, certaines cartes, à l'écran. Et donc, c'était un lieu où effectivement, je réfléchissais là-dessus. Donc, j'aurais pu faire autrement, mais faire autrement, c'est faire dans...
Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a de la part d'Arte, des producteurs, des envies qu'on aille vers ce genre de façon de raconter ou pas ? Ou ça vient de toi ?
Non, alors que ça soit pédagogique, oui, qu'on prenne par la main, oui, parce que c'est un prime. Et encore, ça c'est plus, oui, c'est plus une réflexion, mais que j'ai eue avec Martin Laurent, le producteur, de se dire qu'on raconte un récit. C'est pour ça aussi que c'était hyper intéressant de faire quelque chose sur France Culture en même temps, bah après, parce qu'on raconte pas de la même manière, mais c'est vrai qu'on prend, c'est une histoire qu'on connaissait pas, et il fallait, c'est le narrateur qui porte le récit, et pour digérer autant les archives, les images et la parole, la réflexion, le savoir des historiens et des historiennes, c'était important de suivre comme ça. Donc non, ça n'a pas du tout été une demande d'Arte.
Et le recours à l'animation,
alors, ça répond
à quoi ?
Ça répond au fait que je ne voulais pas faire de reconstitution, parce que l'animation et les collages, plus de l'illustration et du collage. Mais ça a été long, ça a été limite plus long que le montage. Hein. Le peu d'illustration, animation, parce que on devait donner à voir ce qu'on n'avait pas vu, qui sont des massacres et des fusillades. Là, on a vu la question des pendus, mais un peu plus loin, c'est beaucoup plus dur, où c'est vraiment une fusillade massive. Comment on représente une fusillade massive ? Est-ce que ça, on doit juste l'entendre, sans image ? Est-ce qu'on doit accompagner l'imaginaire ? Parce qu'il y a eu des images qui ont été faites d'autres lieux, de massacres similaires, mais d'autres lieux. Et donc, je voulais pas tout animer, parce que il y avait eu un film sur Arte, sur Barbarossa, où pareil, j'avais une envie de voir le document. Les mots qu'on entend, ils sont pris sur un document, ils sont pas inventés. On n'a pas reconstitué, on n'a pas résumé, on n'a pas amélioré le propos pour l'entendre. Et je voulais qu'on voit mes documents. Je voulais, c'est dur, hein, mais je voulais voir que j'avais bien travaillé. Et on a cherché. Et dans la presse des années 30, notamment pendant la guerre d'Espagne, il y a toute une idée des découpages, des collages. Et donc là, il y a toute une série de découpages pour donner à voir quand même ce qui a été la guerre à l'Est, mais avec de la retenue aussi, pour ne pas surjouer. J'aurais fait ça pour Netflix. Je pense que ces parties-là auraient été soit de l'animation un peu brutale, soit de la fiction, peut-être bien faite, mais la fiction, pour moi, ça me sortait du récit. J'avais besoin de me rattacher à chaque fois aux archives, et pour être en plus... le plus près de l'histoire, quoi.
Florent Calvé, qui est par ailleurs dessinateur, vient à ton secours. L'animation renforce la factualité des documents d'archives. Et justement, je voudrais qu'on parle d'un document qu'on vient de voir. D'abord, je te remercie vraiment, parce que cette histoire des partisans, je la connaissais très peu. Et donc là, on voit donc ces gens échappés des ghettos juifs qui vont résister dans la neige, dans le froid.
Ghetto et de l'armée rouge.
Et de l'armée rouge, etc. Alors à un moment donné, on voit des images de ces gens-là, et je me suis posé la question, mais là en toute ingéniosité, est-ce que c'est comme les images des résistants qui ont été filmées après-guerre, comme des reconstitutions, tu sais, la bataille du rail, il faut le rappeler, parce qu'évidemment, des résistants en train de saboter un train se font pas filmer en 42-43, et un grand nombre d'images de notre imaginaire collectif, en fait, ont été filmées après pour reconstituer. Est-ce que c'est le cas ici ou pas?
Alors, il y a des opérations genre sabotage, je peux pas te répondre, là, oui. Ta réflexion, elle est juste, on n'a pas le temps de faire ça à ce moment-là.
Et puis, c'est un peu risqué. C'est un peu con, quoi.
Les images au sein des forêts, oui, ont été prises pendant l'événement parce que les images qu'on a dans les maquis français en 44 notamment, c'est que à partir de 43 notamment, mi 42, c'est Masha Serovic, une historienne qui a travaillé là-dessus sur la question des partisans. L'URSS en fait. N'est pas tombé. Et donc, on commence à envoyer des hommes, mais aussi du matériel, des armes, mais aussi, en fait, des moyens de propagande. Et donc, on filme sur place, on filme... Mais après, on a très peu d'images, ça, c'est des images que j'ai récupérées en Russie. Et c'est des images aussi de la, qui ont été constituées au moment du procès de Nuremberg, où la commission extraordinaire soviétique qui a documenté les crimes à l'Est, aussi documenté, et ce qu'on appelle... en France et en Europe de l'Ouest, la guerre à l'Est, de l'autre côté, c'est la guerre des partisans.
Eh oui, bien sûr.
Donc en fait, l'histoire, elle est... Et donc une partie soit reconstituée, oui, juste après, sans doute, comme la libération de Paris, où des images ont été reconstituées après, ou remontées après. Filmées juste après, dans les décors du lieu, tout ça. Donc effectivement, la question du sabotage, je peux pas te dire, en fait. Mais ce qui est étonnant, en plus, sur l'une des images de sabotage, c'est qu'on... Le wagon qui tombe... C'est écrit SNCF dessus. C'est bizarre.
Thémo Refil nous dit « Les archives évoquées sont celles des vidéos. Quelles sont les différences Quels sont les différents fonds d'archives et sources ?» Là, tu as dit « Je suis allé chercher en Russie, ouais. Je suis allé en Allemagne. » Est-ce que tu peux nous raconter tous les voyages qu'un réalisateur doit faire ?
Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même rester beaucoup à Paris et avoir des gens qui nous aident.
À Paris, tu veux dire sur place. Vivre en dehors de Paris, ce serait le même plaisir. Hein.
Ouais. Ouais, non, mais on peut rester sur... Voilà. On peut rester sur place. Dans l'absolu, j'ai quand même été beaucoup aux archives. Alors... Les archives papier, c'est les archives nationales à Pierrefitte, les archives de la Défense, les archives militaires, des tribunaux militaires au Blanc, les archives de Caen. Ça, c'est tout ce qui est archives papier. Après, il y a tous les fonds des archives départementales, parce que la question de l'épuration et des dossiers judiciaires, c'est dans les archives départementales. Donc, en fait, il faut aller sur place. Là, par contre, il faut vraiment aller sur place, se promener. Ça, c'est agréable et on trouve plein de choses. Il y a des fonds en Allemagne, parce que c'est une histoire allemande. C'est une histoire de l'armée allemande, des Français au sein de l'armée allemande. Donc ça, c'est Freiburg, c'est les archives militaires allemandes. Et là, j'ai trouvé énormément de choses, des noms, des photos. Les photos qu'on voit sur le début du film, c'est des fonds que j'ai trouvés là-bas. En Pologne, parce que c'est où les Français sont stationnés et en entraînement, parce qu'au sein de l'armée allemande, la Wehrmacht et de la Waffen-SS, il y a beaucoup d'instructions. Et c'est intéressant, la Pologne, parce qu'ils sont là-bas pour s'instruire, mais ils sont dans le monde nazi. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe du fait que les travailleurs juifs forcés, la question des camps de concentration, et ils assistent aussi au départ des centres et au départ vers les centres de mise à mort, et ils sont au courant de ce qui se passe. Et les fonds soviétiques, c'est Minsk, en Biélorussie, parce que la plupart des Français, les Français de la Wehrmacht, intégrés à la Wehrmacht, ont combattu en Biélorussie, donc ça, c'est Minsk. Et après, les fonds russes, parce qu'au moment de la libération des territoires occupés, il y a toute une partie, il y a des enquêtes qui sont menées, des images qui sont... Et après, c'est aussi des fonds photos, les fonds photos classiques, des agences de presse collaborationnistes pendant l'occupation. Et après, dans les livres des nostalgiques, parce qu'en fait, ils ont beaucoup raconté cette guerre d'une autre manière, d'une façon héroïque. C'était l'aventure. l'aventure des Français.
Ces livres dont on parlait avant l'émission, qu'on retrouve beaucoup dans les boîtes à livres, dans les abribus, etc. Les livres de Jean Mabir et ainsi de suite.
Éric Lefebvre, dans les historias. Dans les historias, il y a un historia, il y a plusieurs historias où tous les auteurs sont des nostalgiques. Ils racontent une certaine histoire. Mais pour moi, c'est hyper riche que dans ces histoires-là, en fait, ils donnent quand même des noms, des dates qu'on peut vérifier. Il y a des photos. Prouchina, où les Français sont stationnés, il y a très peu de photos de ce lieu. Et eux, ils en ont. Et donc voilà, et on a trouvé ailleurs. Mais...
Extrait titré numéro 2. Ça, c'est pour Nayan. C'est la déposition d'un dénommé Roger Aubert, hein, c'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu veux dire en deux mots ?
C'était le premier document que j'ai découvert, qui a justifié mon intuition, qu'il y avait des choses sans doute dans les archives. Et c'est le document le plus, sans doute le plus dur du film, mais qui donne, qui est le plus juste aussi d'un point de vue historique. Et c'est le premier document que j'ai envoyé à Marie Moutier-Bitan, qui est une spécialiste de l'extermination à l'Est. Et on s'est vu le jour même. Elle n'avait jamais vu un document comme ça en français. Parce que des documents comme ça, ça existe en langue allemande. En français, c'était la première fois.
On regarde. Voilà, le chat réagit comme tout le monde. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être pu préciser dès le départ que c'était très dur. Enfin, le thème parle de lui-même. Velve nous demande quelles images d'archives n'avez-vous pu intégrer pour des raisons juridiques, financières ou techniques ?
Aucune. Aucune, et la question que tu poses sur la dureté des images. Pareil, Arte m'a pas... Le film est hyper dur.
Ah oui ?
Hyper dur. Il n'y a même pas une discussion de... On met moins pendu, moins de massacres. Pareil, c'est un. Arte avait été d'accord pour un 2x52 minutes, ça fait 2x60 minutes. Toi qui sais comment ça se passe pour les documentaires, logiquement, un 52 minutes, c'est un 52 minutes. On peut faire un tout petit peu plus, mais là voilà, ils m'ont dit, ça, en fait, ça roule, c'est important. On raconte l'histoire, c'est dense, mais on suit. Donc non, pas. Et Temps Noir a été super, Martin Laurent a été super parce que.
Donc c'est. Tes producteurs.
Ouais, mon producteur qui a été. Quelles images d'archives on a pu.
Non, parce qu'il y a une question qui se pose quand on va aux archives nationales dont tu parlais tout à l'heure, aux archives militaires. Alors parfois il faut des dérogations, bon, très bien. Mais quand on signe, on te dit si vous faites une photo, c'est à usage personnel. Là, par exemple, le document qu'on vient d'entendre, lu par toi, enfin par le film, et que tient en main, je crois, l'historienne, c'est un facteur.
C'est un facsimilé.
Voilà.
C'est un facsimilé. Bon, là, c'est.
Non, mais il n'y a aucun problème. Mais comment on peut. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut des démarches particulières pour dire, écoutez, aux Archives nationales, ce document, je voudrais le prendre pour le mettre dans un film. Est-ce qu'il y a des droits ? Est-ce qu'il y a des dérogations ? Comment ça se passe ?
Non, il n'y a pas de. Non, c'est comme quand on les signe dans un livre. En fait, là, c'est la recherche historique. Si j'avais été filmé sur place, tout ça, effectivement, il y a des dérogations spécifiques pour tourner, même aux archives, par exemple, nationales, il y a des dérogations spécifiques, il y a un coût. Mais là, c'est l'utilisation des archives comme source historique. Comme c'est de l'administration de la preuve. Moi, je fais de l'histoire, hein, par l'image, par le son.
Oui, bien sûr.
Mais limite, même ce film-là est encore plus un film d'historien qu'un film de cinéaste, presque. Parce que avant de le faire... Même si je suis très content du rythme, tout ça, bref, du récit en tant que tel, par l'image, mais ce qui m'importait le plus, c'était d'être le plus juste d'un point de vue historique, sur ce que je racontais, mais même de ce qu'on savait aujourd'hui sur cette histoire-là. Donc
tu nous garantis, par exemple, qu'il n'y a pas d'anachronisme dans les images. Tu ne mets pas une image de 44 quand tu racontes 41, tu ne mets pas une image.
Non, alors vraiment, moi je.
De Biélorussie, quand tu nous parles de.
Non,
Pologne.
Alors, je suis hyper chiant avec ça et mon monteur se casse la tête avec moi là-dessus. Parce que, effectivement, quand on dérush, ce qu'on appelle au tout début d'un film, après les entretiens, on dérush toute notre matière, des archives que j'ai vues moi avant, mais le monteur, c'est au moment du montage qu'il est là et on les dérush, on les classe. Et donc, vous pouvez les classer. En fait, il y a différentes manières de classer les images. On peut les classer par l'émotion qu'elles nous... ou par les décors qu'elles... ou on aurait pu classer forêt, partisan. Non, là, moi, je mets les lieux et les dates. Ce qui est chiant, parce que ce qui fait que ça me limite mon corpus par rapport aux événements, mais toutes les images ne sont pas des images de Français, filmées par des Français, mais c'est les images en Biélorussie, sauf erreur de notice ou d'archives, finalement, c'est des images de Biélorussie. Ce qu'on voit, par exemple, ce qu'on a vu dans le premier extrait sur Djoukovo, c'est des images des Français sur place, à Djoukovo, qui ont été prises dans un Signal qui était le journal de propagande, le magazine de propagande nazie. Et non, j'essaie d'être le plus juste possible.
C'était ce qu'on appelait un illustré, hein, c'est-à-dire c'était c'est une sorte de Paris Match
C'est la bonne image.
Qui est un je crois que c'est hebdomadaire ou mensuel, je ne sais plus.
En plus, il y a des versions différentes par pays.
Et c'est ça, qui est redoutable.
Avec des photos incroyables. Paris Match Life, en fait, on a l'impression de voir des images. Notamment sur l'été 41, t'as l'impression de voir le Vietnam dans Life. C'est incroyable. Donc non, après la question des noms, c'est une question que j'aurais pu me poser. Citer les noms des personnes. Pourquoi je cite Roger Aubert? On pourrait dire, en plus, il fait une confession, là. J'aurais pu dire Roger A. Mais en fait, je ne me suis pas posé la question longtemps parce que, déjà, il y a un historien qui m'a dit ils sont morts. On ne peut pas attaquer pour diffamation. Un mort ne peut pas attaquer pour diffamation. Et surtout, d'un point de vue de la recherche, longtemps, on a mis des pseudos sous ces noms. Mais sauf que, en fait, comment on fait après pour les retrouver? Parce que certains, et c'est l'objet du deuxième film et d'un épisode de la série pour France Culture, c'est qu'après avoir fait l'Est, ils sont rentrés en France, sur le front intérieur. Ce qu'ils ont fait à l'Est, ils ont voulu le faire en France.
Alors, ça, c'est le prochain extrait.
Mais l'idée, c'était de les retrouver dans les archives. Et en fait, si on les cite pas, parce que moi, ce film, moi, je m'en éloigne de ces affreux. Et donc, l'histoire va se poursuivre, la Absolument. Recherche se poursuit. Et donc, de les citer, de donner les noms, de donner les centres d'archives, de déposer, je suis en train de déposer, et Philippe Douroul fait aussi les archives au mémorial, c'est de dire que cette histoire se poursuit. D'autres chercheurs vont investir cette
question. Alors, c'est le mémorial de la Shoah, c'est ça, qui est partenaire du...
La fondation a
la
été...
La fondation est partenaire de la série documentaire. Il y a une question que j'essaie de retrouver, parce qu'il y en a tellement là, mais en gros, une question de mémoire intéressée qui était de te demander comment par rapport à la violence des archives, tu as travaillé. Est-ce que tu as traversé une forme de mini dépression? J'essaie de citer de mémoire. Comment on s'arme par rapport à ça?
La première fois que j'ai découvert Robert, c'est le premier document que j'ai découvert qui était aussi brut et brutal. Je me rappelle très bien. C'était à Vincennes. C'était dans un carton où il y avait plein de choses qui en lien avec la LVF, mais pas en lien avec ce qui se passait à l'Est. Et c'est une déposition qui est au milieu de listes. Donc, j'ai pas l'avant, j'ai pas l'après. Mmh. Et quand j'ai lu ça, je l'ai scanné et je suis parti. Je suis parti parce que c'était hyper violent. Parce que j'avais un vertige, je me dis, OK, le film, ça va être ça. Ça va être principalement ça. S'il y en a un, il y en a d'autres. Et donc là, non, je me suis protégé. Ça m'a un peu égratigné. Mais par chance, c'était l'été. Et c'est bête, mais de sortir, ça fait du bien. Et j'ai eu la chance de l'envoyer assez rapidement à Marie Moutier-Bitant, qui est une historienne qui est spécialiste de l'extermination à l'Est, qui m'a confirmé que ce qui est raconté, c'était possible et probable, et on a retrouvé assez rapidement l'opération. Donc j'étais rassuré parce que j'étais plus seul. Et après, Philippe. Et après, sur les images... sur les images, j'ai lu une phrase récemment d'un journaliste américain qui a couvert le Vietnam, Michael Hir, ou Earl, je ne sais pas comment on dit, qui dit « Je suis parti pour cette guerre, pour couvrir cette guerre, et elle m'a recouverte. » Et c'est à peu près ce que j'ai voulu montrer dans le film aussi. Sur toutes ces images que j'avais vues, tous ces massacres, mon monteur, la première semaine de dérochage... Il a mal dormi quand même. Parce que pareil, même s'il connaissait le sujet, est-ce que je l'avais bien averti assez de ce qu'on allait voir et de ce qu'on allait travailler? Mais au final, j'ai trouvé une bonne distance grâce aux historiens, je pense. Grâce au fait aussi que j'étais hyper soucieux d'utiliser les bonnes images, de chercher les bons noms, de trouver aussi au sein des archives soviétiques des listes de noms. Dans cette déposition, il y a Berthe de Lyon qui prend un enfant et qui l'exécute parce qu'il n'est pas tombé dans la fosse. Cette image-là de l'enfant, étant donné en plus que j'ai un deuxième enfant depuis pas longtemps, c'est des images qui restent en fait parce qu'on se projette, parce que.
Bien sûr.
Et donc j'ai cherché, et quand j'ai trouvé des listes de personnes qui ont été tuées dans cette région-là, et qu'on regarde les dates, on trouve des enfants. Et donc en fait, de me dire que j'avais fait ce travail-là et que j'avais cherché, ça m'a aussi. Ça m'a mis une distance au final. Et après, le truc aussi, c'est que j'ai été hyper bien accompagné, un, par les historiens, par la boîte de prod, par mes proches. Et que cette histoire est assez loin finalement. Donc, mais effectivement, c'est un. Ceux qui lisent beaucoup et qui écoutent des historiens spécialistes de l'histoire du nazisme, bon, ça marque cette histoire-là. Parce qu'en plus, ça marque encore plus aujourd'hui peut-être. Parce qu'il y a de l'écho, parce que cette histoire est cachée, parce que d'autres se revendiquent aussi de cette mémoire-là. Donc oui, mais j'ai de la chance, c'est que mon monteur est super, Bertrand Amiot, et que Marie Moutier-Bitant m'avait dit aussi, sur cette histoire-là, il faut savoir rire quand même. On a un moment de soupape, quoi. Et peut-être une question de génération aussi. À l'inverse de Philippe, moi, j'ai aucun lien dans ma famille de personnes qui ont combattu. Ni un grand-père, ni un
arrêt. Et ça ramène, juste avant qu'on voit le dernier extrait, ça ramène à la question de, est-ce qu'il faut anonymiser les gens, est-ce qu'il faut mettre un pseudonyme, parce que dans le chat, le truc était, mais avec des mecs comme ça, pourquoi anonymiser? Il y a quand même la question des enfants ou des petits-enfants, est-ce que tu te la poses? Est-ce que tu te l'es posé? Par exemple, Monsieur Aubert, peut-être qu'il a... Il y a peut-être quelqu'un de sa famille qui est en train de regarder l'émission, par exemple, et qui découvre ce qu'a fait son grand-père ou son arrière-grand-père. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose ou on se dit, bah non, l'histoire avec un grand H est plus forte que les liens familiaux ou...
Non, c'est des questions qu'on se pose, mais c'est des questions que je me suis pas dit que j'avais pas cité Aubert, que j'avais pas mettre son nom. Un, pour la question de la recherche. Deux, parce que j'ai essayé de les contacter, la famille. On a la date qui est bien dans ces documents, on a leur date de naissance, tout ça, et donc j'ai eu la famille au tout début. Et cette mémoire-là, au sein des familles, en fait, c'est un personnage qui dit « Ah, dans ces familles, en plus, il y a souvent un résistant et un collabo. » Donc, en fait, on se souvient du résistant et le collabo, en fait, il s'est éloigné de cette famille. Donc, je ne peux pas vous dire, peut-être, je vais être contacté, et sans doute, lors d'une projection en public, certains se sont dit « Dans ma famille, j'avais un oncle, j'avais un père qui était au sein de la LVF. » Est-ce que c'est possible qu'il a participé à ça, tout ça? C'est des questions qui vont surgir. Mais moi, les noms, non, des noms d'un Aubert et des suivants, si on écoute D'Agostini, des bourreaux, ça me non, en absolu, ça me dérange pas de les citer.
Je te propose qu'on regarde donc le dernier extrait que tu nous offres. C'est l'extrait numéro 03. Là, on fait un saut dans le temps, puisqu'on va arriver fin 43, dans ce que la France, l'État français devient un État milicien. Et donc, l'extrait va nous mettre dans ce moment-là. Et on se retrouve juste après. C'est un extrait très fort, c'est un moment, je trouve, très fort dans ton travail, c'est que, c'est ce qu'explique cette historienne, cette férocité du front de l'Est, elle est importée en France. Et voilà, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ça?
Cette idée du transfert d'anciens du front de l'Est en France, on l'avait sur certaines figures de l'armée allemande sur le front intérieur français. La Das Reich, qui pour beaucoup doit faire sens, qui a été responsable notamment des massacres à Tulle et à Oradour, le chef de la Das Reich, c'est un ancien du front de l'Est. Oradour.
On rappelle Oradour.
Oradour-sur-Glane, un village en juin.
Du côté de Limoges.
Juste après le début du débarquement, un village où on a rassemblé les hommes, les femmes et les enfants, dans l'église, les hommes dans l'écurie, la grange, et où ils ont été fusillés, par les armes et par les feux, par les flammes et les grenades dans l'église. Et c'est un village qui aujourd'hui est devenu un lieu de mémoire parce que le lieu est resté intact. C'est-à-dire que tout avait été mis, ils avaient mis le feu, mais ce qui reste, c'est la pierre.
Les fondations.
Les fondations et l'absence. Et notamment, il y a l'image de cette voiture en feu qui est là. Et donc, c'est un lieu de mémoire qui est devenu un lieu de mémoire sur l'idée de l'horreur de l'été 44, sur la répression.
Si je puis me permettre, si vous passez dans le coin, faites le détour, allez là-bas. C'est une expérience, me semble-t-il, inoubliable.
On a construit le village d'Oradour. Le nouveau village Oradour est construit juste à côté.
Juste à côté.
Et c'est incroyable cette vision des deux villages entre les absents dont on se souvient et ce village. Bref. Et c'est une image hyper forte au lendemain de la libération pour les Français et encore aujourd'hui en fait de la répression allemande. Sauf qu'on se rend compte que Oradour aussi, pour information, en Biélorussie, on dit qu'il y a eu un Oradour tous les 3 jours. Mmh. Ce qu'on voit à Oradour à ce moment-là, ce jour-là où on tue civils, femmes, hommes, enfants et vieillards, c'était le quotidien en Biélorussie, quotidien auquel les Français ont participé. Et donc en 1944, au moment de la mise en place de l'État milicien, en fait, quand les ultras de la collaboration prennent le pouvoir, où ils étaient plus rois que le roi et qui voulaient aller encore plus loin dans la répression avec Joseph Darnand, la mise en place de la milice, mais aussi des groupes des groupes d'action du PPF, du MNR et des Jeunes de l'Europe. Il y a toute une répression contre l'ennemi intérieur, les partisans de l'Est, c'est les partisans, les maquisards, les résistants français.
Bien sûr, bien sûr.
D'Agostini, quand il revient en 1943, il revient aussi parce qu'il se fait virer en Allemagne parce qu'il est trop violent, il intègre les miliciens. Et Joseph Darnand va chercher des miliciens. Jean Bassompierre, D'Agostini. D'Agostini intéressant, c'est un militaire qui vient de la coloniale. Et donc ce qu'il fait là à Forges, il l'a fait des dizaines de fois à l'Est. De laisser les gens... Les gens sont dans un chalet. Mettons le feu au chalet. Et lui, on le retrouvera jusque à Vassieux-en-Vercors aussi, qui est un lieu de massacre en avril et juin 44. D'Agostini qui se fera arrêter, qui ne partira pas. Parce que la fin de cette histoire, c'est que la plupart sont partis avec les miliciens l'été 44, rejoindre l'Allemagne et ont combattu encore jusqu'à la fin de la chute du Reich. D'Agostini, lui, se cache. Il se fait choper assez vite à Lyon. Et dans sa déposition, il donne des noms, il sera fusillé, lui. Parce que pareil, l'épuration, il y a deux temps de l'épuration. Il y a le temps de l'épuration au moment de la libération, de l'été 44, l'automne 44, et après, on n'est plus clément. De Gaulle disait que c'était une poignée d'indésirables. Une belle poignée, quand même, mais une poignée. D'Agostini, lui, se fait fusiller, mais en relisant sa déposition il y a quelques semaines, c'est intéressant parce qu'il cite c'est les personnes avec qui il travaillait, il collaborait, et il cite Touvier. Et Touvier, au début, il ne m'apparaissait pas, mais Touvier, Paul Touvier, milicien, donc, qui a été l'un des Français poursuivis pour crimes contre l'humanité,
notamment dans la série Barbie, Papon, Touvier.
Notamment pour une fusillade, la fusillade de Rieux-la-Pape, où au lendemain du débarquement, il fait fusiller des Juifs près du cimetière de Rieux-la-Pape. Ça circule. Tous ces ultras de la collaboration en armes, ceux qui ont combattu aux côtés des Allemands, ont combattu jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, même après le débarquement, ils ont cru, un, à la victoire allemande, mais deux, que leur combat était juste. Les D'Agostini, les Jean Bassompierre, j'ai un jeune, donc je parle pas dans le film, mais Eric Franz, un jeune étudiant parisien, s'engage en 44. À l'été 44. Alors nous, aujourd'hui, on se dit, l'été 44, ils sont complètement fous. On l'oublie, mais la bataille de Normandie a duré 2 mois. Mais jusqu'au bout, ils vont combattre. Et ils vont combattre jusqu'à Berlin en avril et mai 45.
Le chat parle de, je pense, c'est Thomas sur YouTube qui nous dit que Oradour serait en rénovation jusqu'en 2027. Ah. Voilà. Pour clore ceci. On termine. Il y a la division Charlemagne. Tu en as parlé au tout début, c'est-à-dire c'est la réunion de tous ces gens-là, de tous ces survivants, de tous ceux qui continuent à croire qu'il faut servir le nazisme, qui vont se retrouver donc dans cette division Charlemagne, qui va aller jusqu'à Berlin. Qu'est-ce que tu peux en dire, sachant que dans le commentaire, il est dit qu'il n'y a pas d'archives, pas d'images. Et que, évidemment, là, il y a une sorte de trou noir, de difficulté à raconter ça.
Alors, au moment de la défaite de la bataille de Normandie du côté des Allemands, la France est évacuée, les armées allemandes évacuent la France, et donc une partie de ceux qui ont cru à la collaboration partent avec eux. Donc, on a en tête l'image de Sim Maringen. Il y a eu un podcast aussi sur France Inter il n'y a pas longtemps là-dessus, qui est. On rassemble les anciens de Vichy à Simmaringen. En fait, quand ils partent avec les miliciens, les anciens de la LVF. La LVF, ceux qui combattaient à l'Est, et la Waffen-SS sont rassemblés en Pologne. Et donc on rassemble tout. Et en fait, il manque d'hommes. L'armée allemande manque d'hommes. Et donc tous les anciens groupes comme ça de légions étrangères au sein de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS sont rassemblés parce qu'il faut continuer à défendre l'espace vital du Troisième Reich. Et donc ils sont rassemblés à l'automne 44 à Wilfleken et ils combattent à partir de février 45, de février à avril. Et donc là, en fait, ils ne font que reculer parce qu'à partir de l'hiver 45, mars 45, l'armée allemande ne fait que reculer. Mais c'est là où c'est assez étonnant, c'est que c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de désertions, où en fait il faut trouver la fuite. Il y a qui partent, qui essayent de rejoindre le nord de l'Italie, qui n'est pas encore libéré, pour partir. Et bien d'autres, quand on leur demande s'ils veulent aller combattre à Berlin, ils disent oui. Dedans le père de Philippe, Dohaut, Alfred Dohaut, Pierre Bousquet, Henri Fesnay. J'ai trouvé des entretiens après la guerre. Sur France Culture, mais aussi des entretiens qu'ils avaient donnés à Henri Rousseau, où il raconte, où il raconte en quoi ils croyaient. Et donc là, ils disent que leur combat était juste. Et c'est pour ça qu'ils étaient prêts à mourir pour leurs idées. Et leurs idées, c'était les idées du Troisième Reich. Et donc, ils combattent en avril et mai 45.
Bousquet, Pierre, c'est celui qui sera un des fondateurs du Front National. Ce qui m'amène à la phrase d'un des historiens, celui qui fait une blagounette assez marrante en disant que l'amitié franco-allemande, on l'a vu à l'œuvre à Berlin.
Christian Grau.
Voilà, Christian Grau, en disant voilà, ben finalement, c'est le paradoxe, c'est que ce sont des Français. Il y avait aussi des Suédois, me semble-t-il, qui ont défendu vraiment le dernier carré nazi à Berlin. Mais en dehors de cette boutade, il nous dit cette phrase, et j'aimerais qu'on termine là-dessus, parce que les films vont être diffusés juste après cette émission, donc tout le monde pourra aller les voir, mais accrochez-vous. Il nous dit, cet historien, le fait de savoir le passé nazi de certains fondateurs du Front National n'a servi à rien. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Tu la mets dans ton film, ça ne veut pas dire que tu es d'accord, mais en tout cas, tu as envie qu'on réfléchisse à ça. Moi, j'aimerais connaître ton point de vue. Est-ce que tu penses que tes films font œuvre utile? Est-ce que tu penses que c'est important de rappeler quels sont les ancêtres de M. Bardella Jordan ou pas du tout?
Oui, c'est important, mais après, je pense qu'il a... je pense qu'il a raison sur le fait que les livres des historiens... Les films, les émissions radiophoniques sont importantes pour raconter cette histoire-là. Est-ce que ça change l'histoire? Je suis pas sûr. Moi, en plus, j'ai pas cette ambition-là. Certes, la question du contexte, je vais pas raconter la fin du film, mais je vais jusqu'à aujourd'hui, limite à quelques centaines de mètres d'ici même, parce que c'est une histoire qui a encore de l'écho, de la présence. Et c'est pour ça aussi qu'avec la série de France Culture, le LSD qui sera la semaine prochaine, la question de l'extrême droite, de la présence de cette mémoire de l'occupation...
La série documentaire, pour ceux qui ne savent pas, parce que là...
Pardon. La série documentaire sur France Culture, LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, est disponible aussi sur les applications, où je reviens sur les ultras de la collaboration, notamment ces personnages, mais surtout sur la mémoire, parce qu'on ne raconte pas de la même manière à la télévision, à la radio. Là, ce qui était intéressant, c'était de raconter la mémoire de l'extrême droite. Comment ils ont fait face à ce passé collaborationniste, mais surtout ce passé nazi, en fait. bien plus que, que les hommes de Vichy. C'est des gens qui... Pierre Bousquet, à ne pas confondre avec René, Bousquet, Pierre Bousquet, donc, qui est en 1972, novembre 1972, à la tribune, proche de Jean-Marie Le Pen, et c'est celui qui va déposer les statues avec Jean-Marie Le Pen, avant 40, il va combattre en Espagne. Pas du côté des Républicains. Hein.
Non, non.
C'est quand même quelqu'un qui, Nicolas Lebourg le raconte assez bien dans ses livres, c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable et qui, au lendemain de la guerre, en 1945, quand il retourne en France, parce que lui passe entre les filets, veut continuer à combattre. Son combat ne s'est pas arrêté. Et les archives, notamment que j'utilise dans la série documentaire sur France Culture, où on a le témoignage d'anciens qui, en 1982, se souviennent de cet engagement, parce que ce sont des engagés, politique, idéologique, ils ne regrettent rien. Rien. Ils nous parlent encore de l'Europe nouvelle. Il y en a un qui dit, Marc Augier, qui dit « Si on avait laissé l'Europe de nazis, l'Europe serait florissante. » 1982. Ce sont des personnes aussi, et autant qui ont poursuivi leur combat d'un point de vue politique. 72, c'est important, mais 72, dans la salle, 72 à la mutualité, beaucoup sont des anciens. De la LVF, de la Waffen-SS. À côté de Jean-Marie Le Pen, il y a François Brignot. François Brignot, ancien milicien. Brignot, qui a lancé Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, qui en 1969 est la base du Front National, qui est le premier retour d'un mouvement d'extrême droite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. François Brignot, qui était journaliste, qui sera directeur de Minute. François Brignot, que Jacques Chancel reçoit sur Radioscopie.
Grande émission.
Oui, grande émission qui reçoit, à quelques mois d'écart, Lucien Rabatet, Christian Lamazière, François Brignot. Ça dit quelque chose aussi du fait que ce passé-là, de ne pas l'avoir raconté totalement, et aussi de ne pas se limiter seulement au fait qu'au sein du Front National, il y avait un ancien de la Waffen-SS. Mais bien plus que un ancien de la Waffen-SS, il y a une foule... Mais bien plus que l'uniforme, ce sont les idées. Marc Augier, qui est un ancien de la LVF, un idéologue de l'extrême droite française, au moment où il écrit son livre « Les volontaires », il envoie une lettre au dernier général de la division Charlemagne, Krukenberg, une lettre que j'ai récupérée grâce à son petit-fils. Il dit qu'on a perdu une bataille, mais il faut gagner la bataille culturelle pour l'Europe blanche, en 1962. Bataille culturelle pour l'Europe blanche. Donc oui, ça a de l'écho. Ça a de l'écho parce que des gens se retrouvent sur ces termes-là et bien plus que les symboles, bien plus que les tatouages sur les corps, l'idée d'une Europe attaquée, d'une forteresse assiégée, ce sont des termes qu'on entend dans les meetings des années 40, mais même avant, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce documentaire et que j'essaye à chaque fois dans mes films, c'est que l'histoire du nazisme ne se limite pas à la Seconde Guerre mondiale ou se ne limite pas à l'Allemagne. On a beaucoup, et Nicolas Lebourg le dit aussi.
Alors, tu sais qu'ici, il est très favorablement connu de nos services, puisque nous animons ensemble une mensuelle.
Il a sa carte.
Il a sa carte ici.
Il a sa carte.
Extrêmement
rare. Sa carte et son casier. Il le dit très bien. On a beaucoup. L'histoire de la collaboration et de l'occupation aurait été une parenthèse au sein de l'histoire de l'extrême droite française. Pas du tout. Elle fait partie d'une histoire plus longue. L'histoire des Camelots du Roi, l'histoire de l'Action française. C'est des gens qui viennent d'une histoire plus longue et qui la poursuivent. Ils ne se sont pas arrêtés. Cette histoire ne s'est pas arrêtée à Berlin, dans les ruines de Berlin, dans les décombres. Elle se poursuit d'une autre manière, d'autres mots. Et Jean-Marie Le Pen était trop jeune pour porter l'uniforme allemand au moment de la libération. Je crois qu'il a 16 ans. Mais sauf qu'il les côtoie après. Il les poursuit. Et bien plus que l'image de Pétain, du maréchal, de cette image-là. Ce qu'il faudrait interroger, par exemple, sur les dirigeants du Front National. Marine Le Pen vient de cette histoire-là. Dans les dîners, quand elle était petite, autour de la table, il y avait des anciens. Qu'est-ce que ça impacte dans une construction idéologique d'avoir au sein du réseau familial ces amitiés-là? Qu'est-ce qu'il en reste? Et on peut le rejeter. Philippe Douroux, qui est un fils de Waffen-SS, n'est pas... Non. Le rejette. Mais Marine Le Pen, qu'est-ce que ça impacte là-dessus? Et Jordan Bardella, qui explique souvent qu'il est bien trop jeune et que cette histoire est lointaine. Mais sauf qu'autour de lui aussi, il y a des nostalgiques. Qu'est-ce que ça impacte cette histoire-là, ce qu'ils ont fait, cette marque-là, et ces mots même sur qu'est-ce qu'on peut récupérer de leur combat. Parce que c'est ça qu'ils ont mis en place à partir des années 70. C'était que c'était un combat juste, ils étaient l'avant-garde. Ils ont combattu, ils ont été les premiers de la guerre froide. Non, ils n'ont pas été les premiers de la guerre froide. Ils se sont battus aussi pour une idée d'une Europe blanche, avec des gens qu'il fallait exterminer, ou du moins effacer. Et c'est aussi cette histoire-là qu'il fallait raconter.
Dernière, il nous reste deux questions rituelles. La première qui n'a rien à voir, encore que c'est à toi de choisir. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous faire ? Ça peut être un livre, un disque, un film, ça peut être ton sujet, ça peut être un vieux machin, comme ça peut être quelque chose qui va sortir.
Eh ben, quelque chose qui aurait dû sortir et qui va sortir une semaine après les élections sur le documentaire sur d'Arte sur le terrorisme d'ultra-droite. Qui devait sortir la semaine dernière, qui a été décalé.
Qui a été déprogrammé.
Déprogrammé.
Enfin, reprogrammé. Et à cause de l'affaire Quentin Deyrand, quand officiellement c'est ça. Et donc il ne fallait pas fâcher, je le dis comme ça, mais enfin en gros, il ne fallait pas qu'il y avait trop d'émoi, etc. Et que donc Arte a décidé de décaler. Juste après les élections. Voilà. Tu n'y es pour rien. Hein. Voilà.
Mais que j'ai vu moi, qui est hyper intéressant sur cette histoire-là, sur ces poursuites, et pareil sur ce pour dézoomer finalement sur la France, mais de voir cette question de l'extrême droite internationale d'un point de vue international, c'est hyper bien. Il y a Nicolas dedans, Nicolas Lebourg, qui a sa carte et qui est super dans le film. Voilà, ça serait ça. Et après le livre de Philippe Douroux. Si vous voulez poursuivre cette réflexion, pour deux livres même. C'est intéressant parce que deux anciens de Libération. Il y a le livre de Philippe Douroux, Un père ordinaire, sorti chez Flammarion, où il revient sur l'histoire de son père, mais de façon plus large, sur l'histoire des soldats français du Reich, qui est sorti en février dernier. Et le livre de Sorge Chalandon, Enfant de salaud, c'est intéressant parce que Sorge, lui, a tenu. N'a pas lâché l'histoire de son père et surtout les mensonges de son père, et ça montre aussi comment au sein de l'extrême droite française des souvenirs se sont faits ont bougé et sont devenus des héritages, même pour des personnes qui n'avaient pas du tout combattu ou qui n'avaient pas été à certains endroits, comment ils se sont fait leurs certains souvenirs. Et c'est intéressant de se dire que dans deux anciens de Libération étaient deux anciens fils d'anciens soldats français du Reich. Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là ? Qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire, de ce poids-là ? Et c'est deux livres hyper intéressants sur ça.
Ça me permet de préciser que dans quelques minutes, à la fin de l'émission, sur notre nouveau site Flambant Neuf, allez le voir, bon sang de bonsoir, au poste.media, il y aura tous les liens de tes recommandations, mais également tous les liens qui ont été donnés dans le chat, avec des extraits du chat, etc., en ligne, grâce à Eurial. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. C'est une base documentaire extraordinaire qui permet de prolonger la discussion.
Et il y a la retranscription aussi, je crois.
Oh, mais tu es fort. Et maintenant, il y a la retranscription intégrale.
Ah, c'est hyper pratique. C'est
ça. Et ben voilà, on pense aux historiens, aux documentaristes, aux chercheuses, aux chercheurs, etc. Et effectivement, maintenant, il y a le verbatim. Et tout ça, c'est grâce aux abonnés de oposte.media. Ultime question. Qu'est-ce que nous avons fait, mon cher Jean, pendant 1h32?
On a parlé de ma recherche pour mon film et ma série documentaire. On a réfléchi autour des archives, de la mémoire, de l'histoire de la collaboration, de l'occupation, l'histoire du nazisme, mais aussi comment l'historiographie est en train de bouger sur le front de l'Est, sur les crimes. Et sur le fait aussi, et ça c'est Marie Moutier-Bitan qui me disait ça, ce film et cette recherche qu'on a lancée et de façon parallèle avec Philippe Douroux et qui se poursuivent aujourd'hui dans les centres d'archives et dans les universités, montre aussi que longtemps, on a montré l'extermination et la figure des bourreaux comme le fait que les Allemands avaient été préparés à ça. Depuis 1933, on préparait les Allemands à ça. Et en fait, on voit par le profil des étrangers qui ont combattu sous l'uniforme allemand qu'en quelques semaines, en fait, on peut devenir un bourreau. Et ça nous dit plein de choses sur l'histoire en général, des génocides, des crimes de masse, sur, sur les expériences de violence et comment ça se partage, comment ça se déploie, comment ça, ça passe aussi d'un, d'un pays à l'autre. On en parle dans le film, on amorce la discussion. Beaucoup de mes soldats français du Reich sont des anciens de la coloniale. Pas de la colonie de, d'après, pas de l'Algérie, pas de l'Indochine. De l'Algérie d'avant, de l'Afrique équatoriale. Et c'est des gens qui racontent aussi cette idée de la colonisation et qui ont été aussi face à ces violences-là, qui n'est pas une violence du front, pas une violence de 14-18, pas une armée en face. Non, une violence qui s'abat sur les victimes, sur les civils. Et ça, ça lance plein de discussions. Voilà.
Merci.
Merci à toi.
Mes amis, nous sommes sur Opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est Opposte, Opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Opposte.
J'encourage, faites un don à Opposte. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous Opposte. Adonnez-vous Opposte.
Et faites des dons à Opposte. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opposte. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour
abonnez-vous.
Que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous Opposte.fr. Opposte.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Opposte.
Abonnez-vous. Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Opposte et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opposte.fr, y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Opposte, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Opposte, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, pardon, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Oh, bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.